L'hypnose. Une patiente est à l'origine de mon interrogation sur l'hypnose. Cette jeune femme avait accouché sous hypnose d'une petite fille 5 ans auparavant. Elle me dit « J'ai le sentiment d'avoir été spoliée de ce moment-là, et ma fille aussi. » Je voulais en savoir plus. « J'ai l'impression, dit-elle, de ne pas avoir été présente à ma fille. J'étais dans ma bulle, je ne sentais rien, j'étais bien, mais quand ma fille est arrivée, je n'ai ressenti aucune émotion. C'est comme si elle était une chose distanciée de moi et pour laquelle je n'éprouvais rien. » Plus tard, elle me dit « Ma fille ne dort pas bien, elle n'est pas paisible. » Et j'ai l'impression de ne pas lui avoir donné ma joie d'être mère et toute mon affection au moment de sa naissance, et qu'elle est toujours à cette recherche, au moment de s'endormir ou à certains moments de la journée. L'hypnose fonctionne. De nombreux hôpitaux et cliniques l'ont adoptée, de la préparation à l'accouchement aux soins palliatifs, du traitement des addictions aux opérations sous hypnose. L'hypnose est efficace. De nombreux médecins et psychologues l'ont adoptée en l'adaptant, c'est-à-dire en faisant un outil bien paramétré, bien balisé, selon eux. Alors nous allons donner une définition de l'hypnose. Cela vient du grec hypnos, qui veut dire sommeil. Hypnos était le dieu du sommeil dans la mythologie grecque. Selon la définition du grand dictionnaire encyclopédique Larousse, l'hypnose est un état artificiel provoqué par une suggestion qui se caractérise par une sensibilité accrue à l'influence de l'hypnotiseur et la diminution de la réceptivité aux autres influences. Il est intéressant d'avoir quelques éléments de l'histoire pleine de controverses, parfois sulfureuses, de l'hypnose, plus particulièrement à partir de Mesmer au XVIIe siècle. Alors nous allons voir un cours historique de l'hypnose en prenant quelques points d'attention sur tel ou tel personnage majeur de cette histoire. Donc l'historique. L'hypnose, longtemps associée au maïotisme, est connue dans la plus haute antiquité. Les religions à mystère de l'Égypte et de Grèce utiliser des principes hypnotiques à des fins thérapeutiques ou initiatiques. Les vapeurs intelligentes et oraculaires de Delphes nous ont été écrites par Plutarque, entre autres. Les druides gaulois ou des chamans utilisaient des procédés induisant des états modifiés de conscience à effet cathartique. Aujourd'hui encore, dans le vaudou, la transe hypnotique est provoquée par des effets incantatoires. Des charters entiers sont organisés pour vivre des initiations chamaniques où, dans des conditions limites de jeûne et d'hygiène, sont ingurgitées des substances hallucinogènes comme l'ayahuasca sous transe hypnotique. On peut se référer sur cette question au site internet Psychovigilance, particulièrement documenté sur les questions de chamanisme. Mais le premier dans cette histoire de l'hypnose que l'on peut véritablement étudier, c'est Mesmer. Mesmer a vécu de 1734 à 1815 et il est à l'origine de ce que l'on appelle le magnétisme animal. Ce n'est qu'à partir de Mesmer, grand occultiste et franc-maçon, que l'on trouve des études rationnelles et scientifiques autour de ces questions. Mesmer naquit en 1784 en Souabe. Son père voulut qu'il fût moine. Sa vie monastique fut de courte durée, il s'en échappa pour rejoindre Vienne, où après quelques études de droit, il s'orienta vers la médecine. Ce n'est qu'à 32 ans qu'il passa sa thèse sur l'influence des planètes sur le corps humain. Il voulut y démontrer l'existence d'un corps subtil provenant du cosmos et pénétrant dans tous les corps. Il nomma cette force, ou cette énergie, dirions-nous aujourd'hui dans la mouvance du New Age, magnétisme animal. Il travailla également sur les influences bénéfiques que pourraient avoir les aimants minéraux sur la santé. Plus tard, il prétendra que l'imposition des mains, le magnétisme animal, est plus efficace que les éléments. Mais ses expériences et ses succès thérapeutiques furent toujours troubles, parfois objet de scandale. En fait, l'efficacité de ces procédés s'exerçait essentiellement sur des sujets à tendance hystérique ou fragile. Les médecins viennois, ulcérés par Mesmer, qui prétendait tout guérir, l'obligèrent à liquider tous ses biens et à partir. Et c'est ainsi qu'il arriva à Paris. Son succès fut d'emblée considérable. D'une pratique individuelle, il dut passer à des thérapeutiques de groupe. Il utilisa l'imposition des mains ou l'imposition de baguettes de fer ou de verre qu'il magnétisait. Il forma son valet, qui devint son assistant, et inventa son fameux baquet ou baril de Mesmer qui permettait de soigner plusieurs personnes à la fois. Ce baquet était chargé de bouteilles contenant de l'eau magnétisée. Une extrémité d'une baguette de fer touchait l'eau qui remplissait le baquet, tandis que l'autre extrémité était appliquée sur la partie malade des personnes qui entouraient le baquet. Une corde reliait toutes ces personnes et permettait prétendument d'établir l'harmonie du fluide. Dans cette ambiance très particulière, chacun attendait le miracle. Mesmer avait le sens de la mise en scène. Il arrivait après s'être bien fait attendre en habit de soie lilas, impassible, hiératique, tenant une longue baguette tandis que jouait un piano ou un harmonica. Des scènes d'hystérie ou de convulsion s'en suivaient. Des personnes, surtout des femmes, se prétendaient guéries. Tout est si bien que Mesmer devint la coqueluche du tout Paris. Jusqu'au marquis de Lafayette, celui qui aida à la libération aux États-Unis, là, hein, contre les... Voilà. Le prince de Condé et même la reine Marie-Antoinette, la femme du roi, hein, Louis XVI, assista et sans doute participa aux bienfaits du baquet. Se manifestaient des phénomènes contagieux de crise magnétique au cours desquels ces femmes de la meilleure société perdaient leur contrôle, éclataient d'un rire hystérique. On va retrouver ça dans certaines manifestations, par exemple de la bénédiction de Toronto, hein, aujourd'hui. Se pâmaient, étaient prises de convulsions. Mesmer voulut convaincre médecins et scientifiques du bien fondé de sa méthode. Le roi Louis XVI lui-même, intrigué par ce battage, initia deux commissions d'enquête, l'une comprenant des médecins prestigieux comme Salin et Guillotin. Le Guillotin, vous voyez son nom, hein, c'est celui qui a inventé la guillotine après. Hein. Et des scientifiques de grand renom comme Franklin, vous savez, c'est l'inventeur, je crois, du paratonnerre. Hein. Voilà, Bailly et Lavoisier, qui était aussi un chimiste. L'autre uniquement médical, composé des membres de la Société royale de médecine. C'est dire le retentissement que prit cette affaire dans les années 1780. La première commission déclara qu'effectivement, il y avait des manifestations, mais qu'aucune objectivation de magnétisme animal ne pouvait être prouvée. De plus, Bailly précisait, les attouchements, l'action répétée de l'imagination pour produire les crises, peuvent être nuisibles. Le spectacle de ces crises est dangereux et que par conséquent, tout traitement public où les moyens du magnétisme sont employés ne peut avoir à long terme que des aspects funestes. La deuxième commission concluait, les effets produits par ces prétendus moyens de guérison sont tous dus à l'imagination et à l'imitation. Mesmer était furieux, il dut de nouveau partir, il se retira à Merseburg, ou au bord du lac de Constance, où il mourut en 1815. Mais Mesmer, avant la Révolution française de 1789, avait fait des adeptes, notamment le marquis de Puységur, éminent maréchal de camp. C'est là que nous allons voir Armand Marie-Jacques de Chastenay, marquis de Puységur, né en 1751, mort en 1825. Il fut disciple de Mesmer, tout comme ses deux frères, et le marquis de Puységur s'appliqua à cerner les effets thérapeutiques. Il remplaça le baquet par un arbre. Des cordes suspendues aux branches et enroulées autour du corps des patients étaient censées distribuer le fluide vital guérisseur. Vers 1784, il redécouvrit que ce que l'on appelait à cette époque l'état somnambulique était induit par les suggestions de l'initié. Puis Ségur observa que certains de ses patients mis en état de somnambulisme étaient en mesure de deviner leur propre pathologie, les lieux de souffrance des personnes qu'ils touchaient ou auxquels on leur suggérait de penser et même de définir les traitements qui conviendraient. Il fut le premier à parler de clairvoyance dans ces cas-là. Les très nombreux disciples du marquis de Puységur répandront cette nouvelle forme de mesmérisme où ce n'est plus l'hypnotiseur, mais l'hypnotisé, non plus le magnétiseur, mais le magnétisé qui devient l'oracle et d'une certaine manière le thérapeute. Ayant magnétisé un orme près de chez lui, il obtint un grand succès. Il décrivit notamment le cas d'un jeune paysan de 24 ans, Victor Rass, qui se révéla capable, bien qu'assoupi, de marcher, parler et discourir sur sa maladie et sur des sujets inconnus de lui, alors même qu'au réveil, il avait tout oublié. Puis Ségur nomma cet état « somnambulisme magnétique ». Victor semblait capter les pensées et les désirs sans que Puységur ait besoin de les formuler. Par ailleurs, lorsqu'il était en transe, il aidait Puységur à diagnostiquer les maux des autres malades et lui expliquait la conduite à tenir envers eux. On parlera de lucidité magnétique pour qualifier la clairvoyance des somnambules sur leur propre maladie, sur celle des autres et sur les remèdes qu'il leur conviendrait. Malgré la renommée qu'il atteignit et tout le prestige de ses travaux, l'Académie finit par conclure à la non-existence de ces phénomènes de clairvoyance. Ensuite, nous avons le baron du Potay, qui est né en 1796 et mort en 1881. Il était ésotériste et magnétiseur, membre de la Société théosophique. On attribuait l'efficacité de ses manipulations au fait qu'il n'avait pas de pouce à la main droite. Très intéressant de voir que souvent la déficience au niveau physique, va entraîner des clairvoyances ou des capacités à partir de l'organe inexistant ou déficient. Qu'est-ce en effet que le sommeil somnambulique, nous dit Monsieur du Potay ? Un résultat de la puissance magique et qui détermine ses attractions, ses penchants subis, ses fureurs, ses antipathies, ses crises, ses convulsions que l'on peut rendre durables. Si ce n'est le principe même employé, l'agent très certainement connu des hommes du passé, ce que vous appelez fluide nerveux ou magnétisme, les anciens l'appelaient puissance occulte ou de l'âme, suggestion, envoûtement. Il écrit cela dans « La magie dévoilée » ou « Principe de science occulte ». La magie est fondée sur l'existence d'un monde mixte placé en dehors de nous et avec lequel nous pouvons entrer en communication par l'emploi de certains procédés et de certaines pratiques. Qu'un élément inconnu dans sa nature secoue l'homme et le torde, comme l'ouragan le plus terrible fait du roseau, qu'il le lance au loin, le frappe en mille endroits à la fois, sans qu'il lui soit permis d'apercevoir son nouvel ennemi et de parer ses coups, que cet élément est des favoris et semble pourtant obéir à la pensée, à une voix humaine, à des signes tracés, voilà ce que l'on peut concevoir, voilà ce que la raison repousse, voilà ce que j'ai vu, et je le dis résolument, ce qui est pour moi une vérité à jamais démontrée. On a là une caractéristique d'une définition de ce que pourrait être l'occultisme. J'ai senti les atteintes, dit-il encore, de la redoutable puissance un jour, entourée d'un grand nombre de personnes, cette force évoquée, un autre dirait, ce démon, agita tout mon être, et mon corps, entraîné par une sorte de tourbillon, était malgré ma volonté contraint d'obéir et de fléchir. Le lien était fait, le pacte consommé, une puissance occulte venait de me prêter à mon secours, et s'était soudé avec la force qui m'était propre et me permettait de voir la lumière. C'est dans ce nouveau milieu que l'âme trouve l'ennemi, mais aussi les affinités nouvelles qui donnent la puissance. Tout ce qui se fait ainsi a un caractère surnaturel et l'est véritablement. Donc nous retrouvons tous ces éléments-là, donc magie dévoilée et principes de science occulte du baron du Potet. Ce fascicule était réservé aux initiés et du Potet le cédait contre une somme énorme de 100 francs or et le serment par écrit de ne pas communiquer ou de ne pas en révéler les secrets. Alors ce livre contient des opérations magiques, voilà. Devant la multiplication des personnes qui s'adonnaient à ces pratiques et la foule des curieux et des malades qui se pressaient pour vivre des miracles, en 1826, l'Académie royale de médecine demanda une enquête sur le magnétisme animal. Le docteur Laennec, l'inventeur du stéthoscope, était pressenti pour présider la commission. Malade, il ne put diriger cette recherche. Son acuité clinique n'aurait certainement pas permis ce rapport d'enquête favorable établi par un certain Husson, acquis à la cause, qui accumula les expériences les plus spectaculaires de somnambulisme et de clairvoyance, de prévision et même de lecture, tenez-vous bien, les yeux bandés. Mais 10 ans plus tard, en 1837, l'Académie demanda une nouvelle enquête qu'elle confia à Dubois selon des critères d'évaluation plus rigoureux. Cette enquête mit en doute l'ensemble de la réalité objective des phénomènes observés. En Angleterre, le même Dupotet réussit à convaincre un jeune chirurgien, le docteur John Elliotson, de réaliser des interventions chirurgicales sous sommeil magnétique. Il dut démissionner de sa charge professionnelle et des hôpitaux dans lesquels il exerçait devant les invectives et les pressions de ses confrères à l'époque. Il créa 2 cliniques à Édimbourg et Dublin qu'il appela les Mesmeric Hospital, donc du nom de Mesmer. Ensuite, nous retrouvons Charles Lafontaine, né en 1803, décédé en 1892. Après avoir renoncé à une carrière d'acteur, vous voyez hein, ce lien qu'il y a toujours entre les représentations quasi théâtrales du magnétisme et la volonté d'en faire quelque chose de thérapeutique. Après avoir renoncé à une carrière d'acteur, il participa aux expériences du marquis de Puységur et devient un célèbre magnétiseur itinérant. La Fontaine, qui n'est pas naturellement celui des fables, hein, faisait des démonstrations publiques de magnétisme et de somnambulisme en Angleterre. La Fontaine disait expressément que les phénomènes magnétiques pouvaient s'obtenir avec la volonté, mais aussi sans la volonté, ou même contre la volonté. Le 9 avril 1869, La Fontaine fut condamné à 2000 francs d'amende pour calomnie pour avoir fait paraître dans son journal une brochure sous le titre « Un scandale médical » mettant en cause le médecin Auguste Ladé qui dénonçait ses pratiques. Un jour, un dénommé James Braid vint à une de ses représentations avec la volonté, lui aussi, de démontrer les supercheries. Mais James Braid, né en 1795, mort en 1860, a été, je pense, le premier à employer le mot même d'hypnotisme. Il fallut 3 séances, juste 3 séances, pour que Puységur convainquît Braid de la réalité des états modifiés de conscience que certaines techniques pouvaient provoquer. Braid voulut isoler l'aspect magique de la théorie fluidique et de l'aspect représentation théâtrale. On attribue souvent et abusivement à Braid l'invention du terme hypnose dans son livre Neurhypnologie, traité du sommeil nerveux ou hypnotis qu'il publia en 1843. En réalité, le terme avait été utilisé par le baron Étienne-Félix Dénin de Cuvilliers en 1819. Dans son livre, Braid essaya de se différencier des travaux des magnétiseurs imaginationnistes tels qu'Alexandre Bertrand. Il remplaça leur méthode d'induction visuelle par fixation de l'attention de la main sur la main tendue du magnétiseur par la fixation de l'attention sur un objet brillant. Vous voyez, il faut toujours détourner l'attention dans les cas de travail d'hypnose. Il utilisa cette méthode notamment pour obtenir l'anesthésie lors d'interventions chirurgicales. Il observa que tous les sujets n'avaient pas la même sensibilité que les états, et que les états provoqués vont de la simple rêverie jusqu'au sommeil profond, avec absence totale de connaissance et de volonté. À ceux qui lui objectaient que l'hypnotisme était immoral, Brett déclarait que l'état hypnotique ne peut se déterminer ni se produire dans aucune de ces périodes sans le consentement de la personne opérée. Ce qui va à l'encontre de ce que disent d'autres, que l'on peut hypnotiser avec, sans ou contre la volonté. Nous retrouvons ces mêmes arguments aujourd'hui afin d'obtenir le consentement à se faire hypnotiser. Pourtant, Bertrand, grand magnétiseur, avouait déjà en 1826 qu'il magnétisait quelquefois sans même le vouloir. Il y a d'ailleurs de nombreux cas de gens hypnotisés malgré eux. Une lutte opposa bientôt les partisans du magnétisme animal, explication physiologique, aux animistes, convaincus de l'importance de l'aspect des aspects psychologiques. Il énonça une théorie neurophysiologique selon laquelle l'hypnose était induite par la fixation visuelle. À noter que plus tard, il admit aussi l'importance de la suggestion verbale. Il y a plusieurs techniques d'hypnose. Ambroise-Auguste Liébault, 1823-1904. La suggestion verbale et son comparse, Hippolyte Bernheim, 1837-1919. Professeur à l'université de Nancy, Bernheim fut chargé de démasquer Liébault et ses procédés. Mais convaincu de la réalité des guérisons obtenues par ce dernier, il entreprit à Nancy de nombreux traitements sur la base de la suggestion. Liébault, devenu son ami, vint ensuite le rejoindre. Liébault fonda alors avec Bernheim l'école de Nancy. Il soigna surtout de pauvres gens en les endormant et en leur ressassant des suggestions. Pas de diagnostic, pas d'examen préalable, mais des guérisons en foule. Voilà ce que le docteur Bernheim disait du docteur Liébault. Il endort par la parole, il guérit par la parole, il met dans le cerveau l'image psychique du sommeil, il cherche à y mettre l'image psychique de la guérison. La suggestion peut en effet réaliser de la douleur, de l'anesthésie, de la contracture, de la paralysie. Si elle peut créer ainsi de toutes pièces des troubles fonctionnels, il est logique de penser qu'elle peut aussi atténuer, voire faire disparaître, des troubles existants, puisqu'elle est capable de neutraliser une douleur réelle, provoquée expérimentalement. Il est très probable qu'elle peut neutraliser les phénomènes douloureux provoqués par une maladie. Liébault et Bernheim contribuèrent à la renommée mondiale de l'école de Nancy. Avec leurs recherches, cependant plus rigoureuses que celles menées à la Salpêtrière à Paris, qui ne voyaient dans ces items modifiés que des manifestations hystériques. Cependant, le docteur Liébault croyait toujours à une force magnétique animale agissant indépendamment de la suggestion. Cette position entraîna une scission entre Bernheim et Liébault. Alors nous allons retrouver le grand Charcot qui était un grand médecin à la Salpêtrière à Paris. Sa naissance est en 1825 et son décès 1893. En 1878, ce fut une véritable fureur hypnotique. En cette fin du 19e siècle, on n'imagine pas un peu les courants, enfin incroyables, autour de l'hypnotisme. D'ailleurs, un certain nombre de théologiens, de philosophes, ont beaucoup réfléchi sur ces questions et je pense qu'on devrait, dans un travail épistémologique sérieux, d'essayer de retrouver les documents de cette époque parce qu'il y a un certain nombre de réflexions extrêmement pertinentes à ce sujet. Le professeur Charcot, membre de l'Institut de France, professeur de clinique pour les maladies nerveuses à l'hôpital de la Salpêtrière, entouré de ses disciples et admirateurs, Richer, Regnard, Bourneville et autres, ouvrit ses expériences aux malheureuses hystériques dont abondait son service, c'est-à-dire la clientèle de sa clinique. Charcot avait une réputation internationale grâce à ses travaux de neurologie basés sur une recherche clinique rigoureuse en anatomopathologie. Intéressé par la philosophie et toutes les sciences humaines naissantes, il fut séduit par les recherches sur l'hypnose. Il supervisait ses travaux à la salpêtrière et jouait de sa notoriété pour diffuser les résultats obtenus sans vérifier la rigueur des expérimentations devant un public de profanes, d'hommes politiques, de journalistes, d'acteurs alléchés par le merveilleux. Vous voyez encore une fois cette interférence entre la démonstration et l'aspect thérapeutique. Il concentra ses recherches sur ce qu'il appelait les hystériques, utilisant les aimants et des méthodes divers, rejoignant les grandes théories fluidiques. Mais le manque de précaution dans ses expériences, le fait d'utiliser des petits groupes hospitalisés à plein temps et quasi conditionnés, et surtout les succès remportés quotidiennement par Liébeau et Bernheim, ont vu la portée des travaux de Charcot considérablement réduite. Il ne guérit pas, soigne à peine, il expérimente, disait-on de lui à Nancy. Le grand professeur Janet, père de la psychopathologie contemporaine, dénonça ses prestations de foire, héritière des élucubrations de Mesmer. Charcot, à la fin de sa vie, se rendit compte du peu de fondement objectif de ses recherches sur l'hypnose. Il y a eu à cette époque une violente polémique entre l'école de Charcot, à la Salpêtrière, donc à Paris, et de Bernheim, à Nancy, en matière d'hypnose. Pour l'école de la Salpêtrière, un individu hypnotisable est souvent un hystérique, soit actuel, soit en puissance, et toujours un névropathe, c'est-à-dire un sujet à antécédents nerveux héréditaires susceptibles d'être développés fréquemment dans le sens de l'hystérie par les manœuvres de l'hypnotisation. On retrouve ce passage que je viens de citer dans Gilles de la Tourette et Paul Richet, Hypnotisme, dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Charcot prétendit décrire des stigmates fixes et non simulés chez les hystériques, en utilisant une hypnose elle-même conçue comme étant un état spécifique et objectivable. À quoi Bernheim rétorqua qu'on peut tout aussi, si on le désire, provoquer artificiellement ces manifestations, c'est des sujets non hystériques, ou bien encore provoquer chez les hystériques des manifestations tout à fait différentes. Les partisans de Charcot, de leur côté, soulignaient que Bernheim, en expliquant l'hypnose par la suggestion, n'avait en fait rien expliqué des causes du phénomène hypnotique. Donc vous voyez, à travers ces grandes écoles, là, finalement, personne ne sait ce qui se passe, pour faire court. Il y a des phénomènes que l'on peut observer, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Pour résumer un peu de manière un peu lapidaire. Cependant, Pierre Janet, donc un des grands neurophysiologues, enfin des grands psychopathologues au début du fin du 19e, début du 20e, Pierre Janet, j'aime bien une de ses citations qui dit « On ne pense pas avec sa tête, on pense avec tout son corps ». Ce sont des personnes qui avaient une culture globale très importante. Voilà. Mais Pierre Janet, malgré ses critiques à l'égard de Charcot, continuait à s'intéresser à l'hypnose. Il définit précisément ce qu'aujourd'hui nous pourrions assimiler à des emprises mentales que des mentalistes, thérapeutes véreux et gourous de tout poil, arrivent à maîtriser parfaitement. Ce qui est curieux, ce qui constitue la découverte essentielle faite par les magnétiseurs et les hypnotiseurs, c'est que nous pouvons, d'une manière artificielle, grâce à certains procédés qui reproduisent la fatigue et l'émotion, amener expérimentalement cette dépression momentanée et l'utiliser pour faire naître les impulsions que nous désirons. L'idée que nous faisons pénétrer dans l'esprit au moment favorable, quand la puissance de réflexion est épuisée, devient l'objet d'un assentiment immédiat et s'en transforme en impulsion. Et c'est là que nous allons retrouver Freud. Freud, né en 1856, mort en 1939, bien entendu que tout le monde sait qui est le concepteur de la psychanalyse, a été lui-même attiré par le bruit que l'on faisait au sujet de l'hypnose du côté de la Salpêtrière. Et il vint passer 6 mois dans le service de Charcot, puis passa l'été 1889 à Nancy pour y rencontrer Bernheim et Liébeau. Donc il n'y a pas été simplement en touriste, il a véritablement voulu savoir ce qu'était l'hypnose. Il traduisit même les livres de Charcot et de Bernheim en allemand. Il utilisa également l'hypnose, puis l'abandonna pour différentes raisons. Peu précise, difficile parfois à reproduire, il y voyait en outre le danger d'un attachement excessif du sujet à l'opérateur. Un attachement excessif du sujet à l'opérateur. Freud se rappela de l'histoire vécue par le docteur Breuer, neuropathologue viennois, qui avait hypnotisé une malade, Bertha Pappenheim, belle, jeune, jolie, mais anorexique et hystérique, présentant de multiples autres symptômes. Sous transe hypnotique, elle révéla les émotions qui étaient à l'origine de ses troubles, celui qui lui permit ensuite de mieux vivre. Breuer venait de découvrir le mécanisme de refoulement, grâce à l'abaissement du niveau de conscience provoqué sous hypnose, des souvenirs refoulés émergeaient. Cependant, un peu plus tard, Breuer rendit visite à sa patiente qu'il croyait guérie. Celle-ci lui fit une déclaration d'amour des plus démonstratives. De plus, elle montra tous les signes d'une grossesse qui était le fruit de son imagination. Le phénomène de transfert, si important dans la psychanalyse, allait élaborer suite à cette observation. En voici la définition donnée par Roger Mauge, spécialiste de Freud. Le transfert est un phénomène dans lequel le malade reporte sur l'analyste des sentiments, des attitudes qu'il a eues autrefois dans des moments qu'il est maintenant en train d'évoquer pendant les séances d'analyse. Ce peut être un sentiment amoureux, mais aussi hostile, un violent ressentiment également, par exemple. Ainsi, Freud devint de plus en plus prudent en ce qui concerne l'hypnose, se méfiant des phénomènes de transfert qu'elle pouvait susciter. Il en va même à considérer la suggestion hypnotique comme un acte magique, pouvant aller jusqu'à un viol psychique. Il constata que la disparition des symptômes d'appel était souvent suivie de nouveaux symptômes de substitution. Cependant, cette relation particulière entre hypnotiseur et hypnotisé constitua la base de ses futurs travaux. Mais il étudia un mode d'exploration psychique très différent qu'il appela la psychanalyse. En cette fin du XIXe siècle, le père allemand de la psychologie scientifique, Wilhelm Wundt, a condamné la pratique de l'hypnose dans « Hypnotisme et suggestion » publié en 1892, en déclarant que selon lui, « hypnotisme » et occultisme sont étroitement liés. Hypnotisme et occultisme sont étroitement liés. Cette perspective d'un scientifique de la fin du XIXe, particulièrement représentative de toute une connaissance psychologique de cette fin du XIXe, est tout à fait intéressante à signaler parce que nous allons la retrouver dans de ce que nous allons développer par la suite. Dans ce livre, il déclara également que les suites fâcheuses que laisse après elle l'attitude de l'hypnose se manifestent dans l'amoindrissement de la résistance nerveuse et morale. Alors on va retrouver un neurologue éminent qui s'appelle Joseph Babinski. Alors je vais relater une petite expérience que quand on fait de la kinésithérapie ou les internes en médecine connaissent bien le réflexe de Babinski, hein, qui est quand on griffe un peu le bord externe du pied, eh bien on a une extension lente et majestueuse du gros orteil. Je me rappelle de ça parce que c'est assez marrant, une extension lente et majestueuse du gros orteil qui en fait traduit une rupture au niveau de la moelle épinière. Voilà. Donc, Babinski, adjoint de Charcot à la Salpêtrière, il abandonna ses travaux à l'aide d'aimants et reconnut l'importance de la suggestion. Il attribua le nom de pitiatisme, guérison par la persuasion, les travaux menés jusqu'ici. Et puis nous avons Pavlov, dont chacun connaît le réflexe de Pavlov. Ce physiologiste russe, Pour ce physiologiste russe, l'hypnose occupa au départ une grande place dans ses études sur les réflexes conditionnés, études qui vont le rendre célèbre. L'hypnose était pour lui un état physiologique différent de l'état de veille et de sommeil. Puis nous avons aussi Pierre Janet, donc là, régression hypnotique. Janet continua de penser que l'hypnose ne présentait que peu de dangers, mais aussi peu d'efficacité. C'était en pratiquant la régression sur des sujets placés sous hypnose qu'il fut amené à la découverte de la méthode que l'on nommera plus tard cathartique en psychanalyse et qui consiste à rappeler dans la conscience des souvenirs refoulés. Nous savons aussi que ces techniques cathartiques qui permettent de ramener à la conscience des souvenirs refoulés n'est pas sans danger et peut être à l'origine de ce que l'on appelle les faux souvenirs induits. Émile Coué. Alors tout le monde connaît la méthode Coué. Hein, voilà. Donc Émile Coué est né en 1857 et est mort en 1926. Il est à l'origine de l'autosuggestion consciente. Au début du XXe siècle, Émile Coué, pharmacien nancéen, donc vous voyez, il avait été aussi du côté de l'école de Nancy et d'hypnose, hein, s'intéressa lui aussi à l'hypnose et suivit les cours de l'école nancéenne donnée par le docteur Liébeau. Il étudia les effets de l'imagination sur la guérison, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet placebo. Il développa alors sa propre méthode basée sur la primauté de l'imagination sur la volonté. Imagination elle-même influencée par des suggestions appropriées. La célèbre méthode Coué se répandit dans tout le monde occidental et il fut reçu à New York avec les honneurs d'un libérateur. On peut considérer que sa méthode d'auto-persuasion est à l'origine de la pensée positive. On va retrouver de multiples auteurs qui nous viennent d'outre-Atlantique sur cette question de la pensée positive. C'est-à-dire, votre pensée est capable d'améliorer tous les secteurs de votre vie. Ensuite, nous avons Roger Schutz. Schutz, qui est né en 1884, mort en 1970, et qui est à l'origine du training autogène de Schutz. Pour Schutz, l'entraînement autogène ou méthode de relaxation par auto-décontraction concentrative doit être comprise comme un entraînement à l'auto-hypnose qui permet une réduction des tensions et du stress. Ayant remarqué que certains patients parvenaient facilement, après avoir été hypnotisés, à replonger seuls en transe hypnotique, il en arriva à développer une méthode de relaxation qui reproduit cet état. Cette méthode se décompose en 5 phases. Pesanteur, chaleur, organique, concentration sur le cœur et sur la respiration. Chacune de ces phases doit être parfaitement acquise avant de passer à la suivante. Il y a deux types de méthodes de relaxation. Il y a des méthodes de relaxation comme celle de Schutz qui sont à point de départ mental et où on essaye d'impulser mentalement ce que le corps doit ressentir. Et c'est ainsi qu'on va d'abord faire penser mentalement que son bras est lourd. Hein. Et au bout d'un certain temps, eh bien, effectivement, il va devenir si lourd qu'on va avoir l'impression de ne pas pouvoir le décoller. Et ensuite, vous voyez, ce sont des techniques de relaxation à point de départ mental. Alors qu'il y a d'autres techniques de relaxation qui sont à point de départ physique, comme par exemple la méthode de Jacobson ou la méthode d'Ajuriagara, je crois. Enfin, vous connaissez ça aussi en orthophonie. Des méthodes de relaxation physique qu'on peut appréhender. Hein, donc voilà. Tandis que là, tout se passe par effet mental et par conséquent peut entraîner des états d'auto-hypnose. Bien que se voulant différent de l'hypnose, proprement dit, que le training autogène s'y apparente par bien des aspects. Alors ensuite, eh bien, là, véritablement, on rentre dans l'hypnose contemporaine, celle qui est revendiquée aujourd'hui, en tout cas qui est à l'initiative de beaucoup de formations, de thérapeutes et de médecins, c'est l'hypnose de Milton Erickson, dite l'hypnose ericksonienne. Erickson est né en 1901, il est mort en 1880. Alors ça nous intéresse beaucoup plus particulièrement parce que là, vraiment, beaucoup de techniques qui sont opératoires aujourd'hui dans les hôpitaux viennent de l'hypnose ericksonienne. Ce psychiatre américain a renouvelé la pratique de l'hypnose à partir de 1937. Erickson se méfiait de toutes les théories en psychothérapie qu'il jugeait incapables de s'adapter de manière pertinente à chaque personne. C'est pourquoi son approche inattendue et déconcertante faisait appel à ses capacités de créativité et au potentiel d'auto-guérison de ses patients. Son amie Margaret Mead, anthropologue, déclara « Milton Erickson ne résolvait jamais un problème d'une manière déjà utilisée s'il pouvait en trouver une nouvelle, et généralement, il le pouvait. » Ainsi, il est impossible de théoriser ou d'établir des protocoles des pratiques de l'hypnose ericksonienne. Erikson refusait de faire de la théorie. Sa vie durant, très souvent malade au point de mourir à plusieurs reprises, il ne cessait d'observer avec une grande acuité ce qui se passait dans son corps et hors de son corps. Daltonien, dyslexique, ne pouvant pas distinguer les notes de musique, et de plus poliomyélitique, il percevait le monde et son corps différemment de la majorité des personnes. Il développa un sens intuitif et un esprit d'observation tout à fait extraordinaire, si bien que l'on faisait souvent appel à lui quand il s'agissait d'avoir un diagnostic rapide, notamment pour appréhender les capacités à la résistance psychologique de futurs soldats lors de recrutement de la guerre de 39-45. Cette capacité intuitive d'ordre médiumnique se retrouve chez des personnes éprouvées dans leurs capacités visuelles ou auditives, etc. Certains médiums sont capables d'entendre des voix avec leur oreille sourde ou d'avoir des visions avec leur œil aveugle. Ce sont des capacités de prémonition, de clairvision ou de clairaudition palliant au déficit sensoriel. L'aspect magique de certains cas relatés dans les écrits d'Erikson ou de ses élèves ou collaborateurs est pour le moins étonnant si nous n'incluons pas cette possibilité médiumnique, c'est-à-dire se situant en dehors de toute approche rationnelle, objectivable et reproductible. J'ai été, il y a quelque 3 ans, demandé dans un couvent, dans un monastère, parce qu'il y avait un frère de ce monastère qui était intrigué par une personne qui intervenait auprès de l'hôpital pour guérir des brûlés, pour aussi magnétiser un certain nombre de personnes. Et j'ai rencontré pendant plus d'une heure et demie cette personne qui était aveugle d'un œil et sourde d'une oreille. Et elle avait des capacités de prémonition et de clairvision et de clairaudition à partir de l'œil aveugle et de l'oreille sourde. Tout à fait étonnant. Et par conséquent, elle était dans une sphère de médiumnité et de magnétisme. Et ce qui prêtait encore plus à confusion, c'est qu'elle était pratiquante auprès de ce monastère, et par conséquent, elle entraînait un certain nombre de gens qui venaient dans le monastère pour prier, et elle proposait ses services pour les guérir de telle ou telle chose. Donc vous voyez, encore une fois, on est aux confins de l'occultisme, de la médiumnité, du magnétisme dans certains aspects de cette question sur l'hypnose. Erikson demandait à ses élèves d'appliquer sur eux-mêmes l'auto-hypnose et de bien tout observer. Il indiquait des exercices permettant de modifier, alors là, écoutez bien, donc les portes de la perception. De modifier les portes de la perception. Erikson et Aldous Huxley, vous connaissez Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, était un des chantres de toute la révolution hippie aux États-Unis avec toute cette question d'écologie, etc. Et Aldous Huxley et Erikson donc se sont fréquentés assidûment au début des années 50. Huxley faisait des expériences de modification d'état de conscience en utilisant une substance psychédélique, la mescaline, dans une perspective d'approche soi-disant spirituelle, tandis qu'Erikson faisait l'expérience de transe auto-induite, et ensuite il comparait leurs tripes, entre parenthèses, leurs expériences. Il faut savoir donc que c'est l'époque aussi où, quelques années après, il y a eu toutes les expériences sur le LSD, et donc avec les expériences de Timothy Leary. Et on faisait tout type d'expériences pour précisément ouvrir toutes les portes de la perception. Le livre d'Aldous Huxley, donc « The Doors of Perception »,« Les portes de la perception », paru en 1954, est entre autres le résultat de ses recherches croisées entre expérimentation de mescaline de drogue et les expériences que pouvait faire Erikson en état de transe. En creusant un peu sur l'origine de ce titre, Les portes de la perception, nous trouvons la référence au poète sulfureux William Blake, qui est né en 1757, mort en 1827, et qui écrivit un recueil intitulé « Le mariage du ciel et de l'enfer ».« Mariage du ciel et de l'enfer ». Tous les occultistes, tous les ésotéristes, tous les sont très référents à William Blake. Dans lequel il y a cette citation « Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie ». À travers précisément ces expériences-là, il y a une recherche finalement d'infini, mais d'infini non transcendant, hein, non lié à une relation, bien entendu, à un Dieu qui serait transcendant, créateur et sauveur, qui est celui du christianisme. Blake interpréta d'ailleurs le récit biblique de la création de manière totalement inversée au regard de la tradition chrétienne. Ainsi, le serpent tentateur de la Genèse devient un personnage tout à fait fréquentable parce qu'il permet d'ouvrir les yeux. Hein. Mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Eh bien, William Blake prend cette promesse du serpent comme étant véritablement le nec plus ultra de la connaissance humaine et par conséquent de l'ouverture de toutes des portes de la perception. D'ailleurs, on va retrouver un courant de musique. Jim Morrison, le chanteur des Doors, je crois, hein, oui, le chanteur des Doors, s'inspirera des mêmes références pour donner le nom de son groupe de pop musique The Doors, hein, les portes. Mais il y a en arrière-fond tout ce que je viens de dire. Il mourra d'une overdose, comme beaucoup de jeunes de sa génération, en voulant faire l'expérience d'ouvrir toutes les portes de la perception. Erickson, trop fragile physiquement, n'expérimenta pas l'usage de drogue. En tout cas, il ne le mentionne pas. Son auto-hypnose suffisait à la modification de ses propres portes de la perception. Ainsi, dans un article, il déclara en 1977 « Quand il y a une question cruciale à propos d'un patient et que je ne peux pas passer à côté du moindre détail, j'entre en transe ». Erickson ne voulait pas être considéré comme un gourou ou un magicien. Il insistait sur l'importance de l'observation tant de soi-même que du patient. Sa notion de l'inconscient diffère radicalement de celle de Freud. Pour lui, l'inconscient a des ressources qui peuvent aider le patient à trouver des solutions et ne perturbe pas la vie consciente en la contraignant à des refoulements. L'hypnose qu'il pratiqua recherchait les ressources enfouies en soi-même qui auraient la capacité de soulager ses propres souffrances et de résoudre ses problèmes par d'autres voies que celles de la raison ou de la connaissance. Erickson chercha donc à libérer les justes intuitions de l'inconscient sans que l'intelligence, la raison ou la morale n'interfèrent et ne les perturbent. Et on nous retrouve à travers cette phrase, Erickson chercha à libérer les justes intuitions de l'inconscient sans que l'intelligence, la raison ou la morale n'interfèrent et ne perturbent, une des phrases clés de tout le New Age, hein, où on va essayer de développer tout ce qui est intuitif, sans raison, sans morale et d'une certaine manière sans intelligence. Erickson fut essentiellement pragmatique et contournait toute approche frontale qui bloquerait la personne en utilisant toutes les inductions pour aboutir à la solution désirée. Certains de ses proches, comme le psychiatre Don Jackson, se demandaient si les thérapies d'Erickson n'étaient pas basées sur des subterfuges entraînant une amélioration seulement passagère. Ainsi, il déclara, le psychiatre Don Jackson déclara, « Il me semble, lorsque je lis ce qu'il écrit, Erickson, que sa principale préoccupation, c'est de faire la preuve de sa propre habileté à être efficace. Et je trouve que c'est quelque peu différent de chercher à obtenir une certaine gratification à travers la relation, ce que je pense la plupart des thérapeutes recherchent plutôt. Je connais la joie de faire quelque chose de brillant. C'est une magnifique sensation de couper la tête et de la brandir fièrement, mais je ne suis pas sûr qu'avec le temps, précisément ce type de thérapie ou d'approche soit véritablement fondée et suffisamment étayée sur le plan scientifique. Depuis plusieurs années, de nombreuses écoles en France proposent des formations à l'hypnose thérapeutique ou médicale, notamment dans les différents instituts Milton et Erickson. Cependant, cette pratique, comme d'autres techniques thérapeutiques, n'est encadrée d'aucune réelle législation. Richard Bender et John Grinder s'inspireront de cette hypnose ericksonienne pour créer la PNL, ou programmation neurolinguistique, dans les années 70. Donc je vous renvoie au site PNCDS 72, où vous allez retrouver donc un article tout à fait intéressant sur la PNL, ou programmation neurolinguistique. Il faut également mentionner Léon Chertok, psychiatre et psychanalyste français, qui contribua à faire connaître l'hypnose ericksonienne en France et créa un laboratoire d'hypnose expérimentale pour faire reconnaître l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, l'hypnose ericksonienne est utilisée dans les hôpitaux, ce que je disais tout à l'heure. Certains actes de chirurgie sont pratiqués sous hypnose. Des sages-femmes l'utilisent pour préparer des patientes à l'accouchement. Bon. Alphonse Caicedo. Alphonse Caicedo, bien que ne voulant pas trop le dire, s'est très largement inspiré aussi de l'hypnose. C'est un médecin neuropsychiatre colombien. Il fit ses études en Espagne. Il fonda en 1959 une société d'hypnose clinique, puis la rebaptisa l'année suivante en société de sophrologie médicale. Marié à une adepte de yoga, il s'intéressa aux spiritualités orientales. Il mit sur pied une nouvelle méthode thérapeutique en s'inspirant à la fois du yoga, du bouddhisme et du zen. Il prétendit que sa méthode était areligieuse. Cependant, l'anthropologie qui la sous-tend est fortement marquée par les spiritualités orientales. Cette méthode, c'est bien entendu la sophrologie. Alors, nous allons terminer par quelques réflexions conclusives à ce stade. Nous en donnerons quelques autres à l'issue de la deuxième partie de ce topo sur l'hypnose. Réflexions conclusives à ce stade. Si les effets de l'hypnose ne sont pas à remettre en cause, bien entendu, on voit bien que quelque chose se passe. Il est très regrettable qu'un travail épistémologique rigoureux ne soit que très insuffisamment initié compte tenu de tous les antécédents sulfureux que nous venons de voir. En effet, l'étude approfondie de ses origines historiques, de sa valeur et de sa portée permettrait de prendre du recul et d'éviter de valider trop rapidement une approche séduisante a priori, mais qui pourrait entraîner des effets secondaires non immédiatement visibles. Il est des analyses basées, il y a beaucoup d'analyses sur les techniques d'hypnose aujourd'hui. J'ai une jeune sage-femme qui a fait son mémoire sur l'hypnose auprès de femmes qui allaient accoucher et qui m'a montré son mémoire. Mais il n'y a aucune critique, c'est simplement une description des méthodes. On a pas d'approche distanciée et critique du travail. Et puis, les analyses basées sur des interrogatoires de ce qu'ont pu ressentir, par exemple, des femmes ayant accouché, sont rapides. C'est le ressenti de la personne ayant été mise sous hypnose qui, pour la plupart, sont satisfaites sur le coup. Tout le monde est content, hein, et le thérapeute, et le médecin, etc., et la personne, qui ne recherche pas à moyen ou long terme des paramètres comportementaux plus subtils. Quels pourraient être ces paramètres comportementaux plus subtils ? Bien, c'est par exemple une certaine indifférence relationnelle et une dépendance à l'égard de ce type d'approche. Cette indifférence relationnelle, vous savez, je l'ai relatée quand de mon interrogation première avec cette femme qui avait accouché sous hypnose et qui était indifférente à l'enfant qu'elle venait de mettre au monde, à cette petite fille. Et donc, voilà. Aucun recul sur le plan philosophique ou même psychologique n'est envisagé. Nous sommes là dans la validation au vu de la performance immédiate. Et une vraie question se pose. Dissocier soma, c'est-à-dire le corps, et psyché. Dissocier soma et psyché de manière induite, même pour un temps, ne serait-ce pas entraîner des effets secondaires non encore évalués ? Indifférence à la souffrance, indifférence au pâtir et au compatir, indifférence à l'autre. Et tout cela se fait à bas bruit, puisque précisément rien n'est ressenti. Sur le plan éthique, la mise en dissociation somatopsychique d'une personne n'entraîne-t-elle pas d'autres distorsions sur le plan de la vie affective, voire de la vie spirituelle? Il n'est pas inutile de se poser ce type de questions qui ne sont pas à l'ordre du jour dans les approches médicales et psychologiques visant avant tout l'objectivation d'une efficacité immédiate.